David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. David et tout le peuple qui était avec lui partit de Baal et Juda pour en faire monter le coffre de Dieu sur lequel est invoqué le nom du Seigneur des armées, qui est assis sur les kéroubim, au-dessus du coffre. Ils chargèrent le coffre de Dieu sur un chariot neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline, avec le coffre de Dieu. Ahio allait devant le coffre. David et toute la maison d'Israël jouaient devant le Seigneur sur toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, sur des lyres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils arrivèrent à l'aire de Nakhon, Uzza étendit la main vers le coffre de Dieu et le saisit, parce que les bœufs avaient glissé. Le Seigneur se mit en colère contre Uzza, et Dieu l'abattit là, à cause de cette insolence. Uzza mourut là, près du coffre de Dieu. David se fâcha, parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en Uzza. C'est pourquoi on appelle ce lieu Peretz Uzza jusqu'à ce jour. En ce jour-là, David fut saisi par la crainte du Seigneur. Il dit, « Comment le coffre du Seigneur pourrait-il entrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre le coffre du Seigneur chez lui, dans la ville de David, et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, le Gathite. Le coffre du Seigneur resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, le Gathite, et le Seigneur bénit Obed-Edom et toute sa maison. On dit au roi David, « Le Seigneur a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. » Alors David se mit en route et dans la joie, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David. Quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, il sacrifia un taureau et une bête grasse. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompe. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant le Seigneur, et elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené le coffre du Seigneur, on le plaça en son lieu, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. Et David offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. David revint pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des servantes de ces gens comme s'exposerait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur, Israël. Et c'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des servantes dont tu parles que je veux avoir ma gloire. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort.
On poursuit donc dans le livre de 1 et 2 Samuel. Il y aura encore un texte dans 15 jours sur ce livre-là. Je commencerai avec deux questions. Devant qui est-ce que vous vous souvenez avoir tremblé ? Quelle figure que vous avez connue, peut-être dans votre jeunesse, un professeur d'école, un parent colérique, une figure qui vous semblait autoritaire, devant qui est-ce que vous avez tremblé ? Et peut-être encore dans le présent, il y a quelqu'un au travail qui vous fait peur et sa présence ne vous est pas indifférente, ça provoque toutes sortes de réactions. Quelqu'un que vous redoutez. Mais devant qui est-ce que vous êtes dans l'euphorie? Devant qui est-ce que vous pouvez rire aux éclats, dévoiler votre personnalité, être vous-même, vous lâcher, comme on dit, sans façade, et étant même prêt à faire part de choses très personnelles sur vous-même? Ce sera peut-être un parent, un frère, une sœur, un ami qui vous est proche. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais on a de la peine à joindre ces deux tableaux, de voir en une seule et même personne quelqu'un devant qui on aurait de la crainte, et devant cette même personne être prêt à se dévoiler, à être dans l'euphorie. Et pourtant, ce texte nous parle de ces deux facettes devant la même personne. Dans le texte, il est question de la manifestation de la présence de Dieu. Ça se voit dans le coffre qui est présent tout au long du passage. Et au verset 2, il est présenté comme le coffre de Dieu sur lequel est invoqué le nom du Seigneur des armées, qui est assis sur les kéroubim au-dessus du coffre. Et ça vaut la peine de comprendre ce que ce coffre représente pour bien saisir les implications. Il ne s'agit pas ici d'une image de Dieu, comme si Dieu était limité par une image. Ce serait à l'encontre du deuxième commandement de la loi de Moïse, tu n'auras pas d'image taillée. Mais il y a une illustration peut-être qui peut nous aider à comprendre. Il est question ici d'un nom. Quand vous avez un nom, ou quelqu'un appelle votre nom, c'est une référence directe à vous-même, mais on ne dira pas de ce nom que c'est entièrement vous, qu'il vous définit dans le sens qu'il révèle toutes les facettes de votre personnalité. Mais il y a bel et bien un renvoi du nom à une personne, et c'est le cas dans le nom qui est utilisé pour Dieu, le Seigneur des armées, le Maître de l'univers, selon notre version. Une manière de dire que Dieu est redoutable, qu'il est majestueux, infiniment grand, et ce coffre, à sa façon, doit le représenter. De quelle façon? On pourrait dire qu'il nous parle de trois facettes de la personne et de l'œuvre de Dieu, trois mots-clés qui commencent par R, révélation, réconciliation, règne. Révélation déjà parce que le coffre contenait les tables de la loi, les tables qui avaient été faites pour Moïse. Symbole de cette révélation aussi, dans le sens où c'est avec le coffre de l'Alliance que Dieu se révélait dans le tabernacle lorsque Moïse le rencontrait. Il nous parle aussi de réconciliation. Tout pardon représente un coût. Si ce n'était pas le cas, une personne à qui vous diriez, tu sais, tu devrais lui pardonner, et la personne qui vous dit, mais c'est trop dur de pardonner avec ce qu'il m'a fait. Si le pardon ne représentait pas un coût, ce ne serait pas si difficile. Mais c'est bien le cas. Et symboliquement, un sacrifice était offert. Le jour des expiations en particulier, une cérémonie entre Dieu et le peuple qui devait permettre à chacun de réaliser que le pardon a un coût, la réconciliation avec Dieu a un coût. Et symboliquement, du sang des sacrifices était répandu sur le coffre de l'Alliance. Mais il parle aussi de règne. En 1 Chronique 28, verset 2, David présente ce coffre de l'Alliance comme le marchepied de Dieu, comme si Dieu était au-dessus de ce coffre. Dieu est infiniment grand. Il n'est pas limité géographiquement dans l'espace. Mais par cette image, on comprend que Dieu est appelé à régner et tout le peuple devait réaliser que c'est Dieu qui régnait. Au-dessus des rois, c'est lui qui régnait. Et les kéroubim, représentés sur le couvercle, ces êtres célestes devaient nous aider à réaliser qu'on avait affaire à celui qui régnait au-dessus de tout. Maintenant, en écoutant ça, il y en a peut-être quelques-uns qui se disent, mais des sacrifices d'animaux, un coffre qui devait être transporté par ce peuple, est-ce que ça ne nous dit pas les limites d'une croyance en Dieu? Grandissez un peu, arrêtez de croire n'importe quoi. Ce serait peut-être la perspective de l'un ou l'autre ce soir, de se dire ça. Il y a bien des questions de limites dans ce texte. Mais quelles sont les limites? C'est important de bien les comprendre, ces limites. Les nôtres ou celles de Dieu? À mon avis, il y a deux aspects à ce coffre qui est représenté. À ce moment-là, dans l'histoire, Dieu choisit de se manifester et de manifester sa révélation, la réconciliation, son règne de cette façon. Mais c'est pour que nous puissions, et en particulier le peuple à cette époque-là dans l'histoire, puisse comprendre de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Et c'est d'abord de leurs limites qu'il tient compte. Un peu comme un scientifique que vous suivrez pour un cours et qui en fait va utiliser des concepts simples et accessibles pour vous permettre de comprendre des réalités complexes sur l'univers, par exemple. Dieu tient compte des limites des humains à cette époque-là dans l'histoire par ce coffre moyen de révélation. Mais dans le deuxième temps, on voit qu'il y a les premières traces de limites que Dieu va choisir lui-même de s'imposer. Dieu va véritablement accepter en Jésus de s'incarner. Il incarne la révélation, la réconciliation, le règne. Jésus, il est la révélation, c'est lui le parfait prophète, le porte-parole de Dieu. Il est le Verbe incarné. Jésus, c'est lui qui manifeste cette réconciliation. Il est le parfait prêtre qui nous a réconciliés avec Dieu et qui a offert sa vie en sacrifice. Jésus, c'est en même temps celui qui règne. Son nom le dit, le Christ, le Messie, il est le roi. Et ce coffre nous dit donc aussi les limites que Dieu a accepté de s'imposer. Comme le dit le cantique, mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Au mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Et si Jésus accepte ses limites, les limites d'un corps, c'est pour tenir compte de nos limites. Mais là où nous en sommes, dans la révélation de Dieu, qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet de Dieu ? Deux points ce soir, terreur devant le Seigneur, euphorie devant le Seigneur. D'abord, terreur devant le Seigneur. Il y a 15 jours, il y a eu un match test dans le stade qui doit accueillir le premier match de la Coupe du Monde au Brésil. Un média décrit l'attitude des supporters de l'équipe hôte qui accueillait. Malgré la défaite et la pluie, les supporters de Corinthians, alors j'imagine qu'en portugais ça doit donner toute autre chose, mais moi je le dis, ils ont accueilli avec enthousiasme ce match, l'inauguration de l'Arena Corinthians. Il y avait 36 000 spectateurs. Et ici, on est dans les 30 000 aussi, sans compter tout le peuple qui accompagne. 30 000 soldats sont décrits comme étant présents pour accompagner ce coffre vers Jérusalem. Et le verset 5 nous dit l'ambiance. Ils mettent le paquet sur le plan musical. David et toute la maison d'Israël jouaient devant le Seigneur sur toutes sortes d'instruments. Pourquoi ces grandes pompes ? David a bel et bien réalisé qu'il y a de l'importance à voir ce coffre, symbole de révélation, de réconciliation, de règne. Ce symbole fort doit être au cœur de la nation, dans sa capitale, à Jérusalem. Ceci dit, en voyant le déplacement qu'il y a à faire, il y a une sorte de présentation des dénivelés, un peu comme le dévoilement du Tour de France, on va voir où il y a des dénivelés, et ça nous prépare à l'incident qui va suivre. Il s'agira de monter vers Jérusalem, mais tout commence par une descente, le coffre se trouve sur une colline, chez un certain Abinadab, et pour un tel parcours, ce qui leur semblait le plus sage, c'était un char neuf, comme il est précisé à deux reprises, et pour s'occuper de ce char, dirigé par des bœufs, on trouve les deux fils d'Abinadab, Uzza et Ahio. La parade est lancée, imaginez tous ces instruments, les musiciens sont concentrés. Mais au moment d'arriver à un chant d'un certain Nakon, tout le monde s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'accident est décrit au verset 6. Les bœufs qui tiraient le char ont glissé. Uzza étend sa main pour empêcher que le coffre ne tombe à terre, maintenir le coffre sur le char. Et en le touchant, il est comme foudroyé et il meurt dans les instants qui suivent. Vous imaginez le choc de tout ce peuple rassemblé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un peu de recul, l'auteur présente les faits de la façon suivante. Le Seigneur se mit en colère contre Uzza et Dieu l'abattit là à cause de cette insolence. Uzza mourut là, près du coffre de Dieu. Est-ce que Dieu est colérique? Soupe au lait, touche pas à ça, paf! Et il tue quelqu'un? Quelqu'un qui ne se contrôle pas dans sa colère? Et on se dit, mais Uzza, il essayait simplement de maintenir le coffre sur le char, l'empêcher de tomber. Il faut reconnaître qu'on est troublé devant un tel passage. Et David l'est aussi. Regardez le verset 8. David se fâcha parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en Uzza. C'est pourquoi on appelle ce lieu Peretz Uzza jusqu'à ce jour. Intéressant de relever ce mot brèche. Il a été mentionné dans le chapitre précédent pour parler de ce moment où il y a eu victoire contre les Philistins. Ça, on comprend. Mais là, quelqu'un du peuple qui voulait tout simplement maintenir un coffre sur le char et il est foudroyé. Terreur devant le Seigneur. En ce jour-là, David fut saisi par la crainte du Seigneur. Il n'a plus envie de poursuivre la procession. La fête est finie. Terrifié à l'idée d'avoir un tel coffre chez lui, il rentre seul à Jérusalem, sans le coffre. Le coffre est conduit dans la maison d'un certain Obed-Edom, le Gathite. Et comment comprendre ce qui s'est passé? Comment comprendre ce qui s'est passé? On est troublé devant un tel passage. Et soit dit en passant, c'est un des passages qui nous dit que la manière dont Dieu nous est présenté dans les Écritures ne correspond pas à nos schémas. On entend souvent les gens dire, mais finalement, le Dieu que vous vous êtes conçu, vous les chrétiens, c'est le Dieu qui vous rassure, qui vous apporte la sécurité dont vous avez besoin, à laquelle vous aspirez. Un texte comme celui-là, avec le premier concerné, David, qui est terrifié, est-ce qu'il nous rassure vraiment, ce Dieu-là? Avant de mieux comprendre ce qui se passe ici, c'est intéressant de relever un contraste entre ce qui nous paraît acceptable et ce qui nous paraît inacceptable. Mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous considérez comme normal que Dieu pardonne vos offenses? Pourquoi est-ce que vous considérez comme normal, acceptable que Dieu pardonne vos offenses? Mes offenses? Pourquoi est-ce qu'on le considère comme un service minimum? Il peut au moins faire ça. Après tout, si on a un peu de lucidité sur nous-mêmes, on reconnaîtra que nous, on a de la peine à pardonner à quelqu'un qui commet sans arrêt, les mêmes offenses vis-à-vis de nous. Au bout d'un moment, on est lassé, fatigué. Et là, c'est encore dans des domaines peut-être où on est sensible. Vous avez chacun d'entre vous certainement des domaines où vous sentez « ça, c'est un domaine où j'ai beaucoup de peine à pardonner ». Là, il y a un domaine où là, pour moi, c'est trop difficile de pardonner. Parce que vous pensez juste, droit, intègre dans ce domaine-là. Et vous avez beaucoup de peine, j'ai beaucoup de peine à accepter que quelqu'un puisse m'offenser dans ce domaine-là. Mais un Dieu infiniment juste est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pourquoi est-ce que ce serait normal, facile, que Dieu pardonne? Infiniment plus saint, infiniment plus juste que tout ce qu'on peut concevoir. Par contraste, ici, avec un texte comme celui-là, on est sous le choc, sur les dents, à se demander si Dieu sait vraiment ce qu'il fait. Mais de la même façon que le coffre nous aide à comprendre qui est Dieu, la manière de manipuler le coffre devait aussi nous apprendre à connaître Dieu, de savoir à qui nous avons affaire. Le transport du coffre, ce n'est pas une nouveauté dans le peuple d'Israël. Pendant 40 ans dans le désert, il a été transporté. Et dans la loi de Moïse, on trouvait les règles pour le transport de ce coffre. En résumé, on peut dire qu'il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas regarder, il ne fallait pas charrier. Alors, ça, c'est un petit jeu de mots. Charrier dans le sens de transporter une charge à l'aide d'un véhicule à traction animale. Pas toucher parce qu'il fallait manifester l'importance à ce coffre. Et c'était un certain clan des Lévites, les Cohétites, qui devaient transporter cette arche. Pas regarder, à cause de tout ce qu'il représentait, symbole de la gloire de Dieu, il devait être recouvert du voile du tabernacle, qu'on ne porte pas les yeux sur lui. Pas charrier, dans le sens que ce coffre devait être porté, là encore, par certains membres du peuple qui excluent l'utilisation d'un char. Mais chacune de ces règles est minimisée, comme si ce n'était pas si grave. C'est plutôt notre façon de le faire qui est plus importante que la manière de voir de Dieu. Sa colère, elle n'est pas arbitraire. En fait, Dieu, il est très prévisible dans ce qu'il avait dit sur la manière de procéder. Et cette tendance à minimiser, elle se retrouve chez nous aussi, non ? Minimiser. Prenez l'illustration des posters que vous voyez dans le métro, dans les transports. Quels sont les comportements que vous avez beaucoup de peine à avoir pratiqués dans le métro ou dans les transports en général ? Ils ont bien su le mettre en image. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand on arrive dans une situation où quelqu'un vous bouscule alors que vous n'êtes pas encore sorti du métro, on entre, ou quelqu'un qui a un sac et qui vous bouscule avec son sac, ou toutes ces réactions qui ont été mises en image. Moi, ma tendance, c'est de voir l'image par rapport à la personne que je suis en train de voir. Mais est-ce que vous, naturellement, comme moi, on a l'habitude de se voir dans ces images, de se reconnaître, de se dire, ben là, ça c'est moi, ça. Non seulement on a de la peine à être lucide sur nous-mêmes, mais en plus, on est très catégorique sur la manière dont les autres devraient se comporter. Est-ce qu'on est aussi lucide sur nos colères, sur notre égocentrisme, sur notre manque de maîtrise de soi, nos jugements, notre insatisfaction récurrente? Est-ce qu'on est vraiment lucide dans ces domaines-là? Notre amertume, nos jalousies? Dieu est celui qui nous voit dans tous les domaines de notre vie et dans toutes nos offenses vis-à-vis de lui. Et ce qu'il nous permet, à mon avis, de saisir, c'est que oui, il y a à la fois terreur devant lui, mais paradoxalement, on l'a dit, ce coffre nous parle de réconciliation. Et il est possible de réaliser en même temps que si Dieu est terrifiant dans sa sainteté, dans sa justice, dans sa droiture, il veut la réconciliation. Et en Jésus, c'est ce qu'il a révélé. Il y a un pardon. Et pour nous, il s'agit tout simplement de reconnaître nos torts, d'être lucides sur nous-mêmes et de savoir qu'en Jésus, nous pouvons avoir un plein pardon pour toute offense. On passe à l'euphorie devant le Seigneur. Après la terreur, ce qui s'est passé, on trouve un tournant majeur au verset 12. On dit au roi David, « Le Seigneur a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. » Jusqu'ici, David était dans la position de recul. Il ne voulait plus s'approcher de ce coffre. Mais il réalise, par les échos qu'il a, que le projet de Dieu n'est pas de détruire, mais de bénir. Et ce serait facile pour nous aussi de penser que Dieu, dans sa manière d'agir dans notre vie, n'est là que pour détruire, dans les circonstances, les épreuves que je vis. Est-ce qu'il est là pour détruire ? David a réalisé qu'il était bel et bien celui qui veut bénir. Et dans l'Épître aux Hébreux, on découvre que même la correction que Dieu apporte dans notre vie, Elle doit manifester l'amour de Dieu. Il n'est pas indifférent. Il nous traite comme ses enfants. Et à cette nouvelle, David désire achever le transport du coffre vers Jérusalem. L'accent ici est mis sur la joie qu'il y a. Il y a de nouveau cette musique, cette danse au verset 13. La joie, elle semble presque fade pour décrire ce qu'il est en train de vivre. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompe. C'est l'euphorie. Quand est-ce qu'on a pu dire de vous que vous avez dansé de toutes vos forces? Peut-être un mariage ou une soirée. Mais là, c'est devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il danse de toutes ses forces. Certainement, il y a une part culturelle dans les victoires, dans les moments de fête. Le peuple d'Israël, il y avait ces danses. Et dans l'application de ce passage, ça ne signifie pas, par exemple, que tout le monde devrait danser à la RDS. Même si certainement, il y a ici une invitation à plus de joie quand on chante, plus d'expression de cette joie. Il faut aller plus loin dans la reconnaissance et dans la joie. Et certainement, une des choses à avoir à l'esprit, c'est que c'est devant le Seigneur, le mot-clé. J'étais à une conférence en début de semaine, il y avait plus de 600 personnes qui étaient là pour la conférence, il y avait des moments de chant. Et en pensant à ce passage, j'étais surpris plusieurs fois à me dire, mais en fait, tu n'es pas vraiment en train de chanter devant le Seigneur. J'étais en train de regarder comment tel ou tel réagissait à la musique. J'étais en train de penser à telle ou telle façon d'agir. Ou alors, dans l'introspection, mes pensées, ma manière de réfléchir. Mais ce n'était pas devant le Seigneur. Ce qu'il y a de magnifique ici, dans ce qui est décrit au sujet de David, c'est qu'il n'est ni dans l'imitation, ni dans l'introspection. C'est devant le Seigneur qu'il danse, qu'il chante. Et il y a une aspiration bonne pour nous à la RDS. Si on pouvait venir ici et chanter devant le Seigneur, avec cette conscience de la personne de laquelle on s'approche. Mais il y a un contraste, tout le monde ne se réjouit pas. Il est présent au verset 16. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter, danser devant le Seigneur et elle le méprisa dans son cœur. Il y a deux perspectives bien différentes. David qui danse de toutes ses forces, pour qui aucun sacrifice n'est trop important. Et il y a la perspective de Michal qui regarde depuis sa fenêtre et qui méprise David à cause de la manière dont il se comporte. Et on voit deux perspectives, un contraste qui rappelle deux regards qu'on a déjà vus dans ce livre de Samuel. On se souvient de cette parole de Samuel au moment du choix de David. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Et pour Michal, clairement, David, il est en dehors des clous. Pas de dignité, pas de respectabilité. Danser comme il le fait aux yeux des serviteurs, habillé comme il est. Et on entend l'ironie dans ce qu'elle dit. Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des servantes, comme s'exposerait un homme de rien. Autrement dit, on retourne dans les bons vieux schémas de l'apparence, de la prestance, de la taille. Mais pour David, c'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi. C'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Dieu l'a choisi alors précisément qu'il était le petit insignifiant, celui qu'on n'avait même pas invité à la fête. Et il n'a aucun problème avec ça. Vers la fin de la deuxième section, on lit que ses regards mènent à des trajectoires différentes et même à des renversements. Michal poursuit la prestance, l'apparence, dans une culture où avoir une descendance est très important, en particulier dans la royauté. Eh bien, elle n'aura pas cela. Ce qu'elle aurait pu chérir par-dessus tout, elle ne va pas le connaître. David, de son côté, alors qu'il s'était abaissé dans sa manière de s'habiller, de se comporter, il sait que par ses serviteurs et ses servantes, il saura être élevé. Et en pensant à notre manière tordue de réfléchir, notre recherche permanente de l'élévation, On retrouve par la suite des paroles de Jésus qui nous invitent à un changement, de perspective. Luc 14, 11 dit « Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. » Et la question que j'aimerais vous poser en conclusion, c'est comment est-ce que vous allez rechercher cet abaissement dans vos conversations, dans vos relations, sans fausse modestie ou désir de manipulation? Comment est-ce que vous allez manifester, comment est-ce que je vais manifester cet abaissement dans mes conversations, dans mon travail, en servant dans les coulisses, ici à RDS, dans l'église? Comment est-ce que je vais sincèrement, devant le Seigneur, servir? Je vous invite à prier. Notre Père, nous reconnaissons notre besoin de toi, à la fois pour reconnaître ta sainteté, combien nous sommes tordus, combien nos offenses sont graves vis-à-vis de toi. Et nous avons besoin de toi aussi pour tout simplement vivre notre vie d'abaissement, de service, devant toi et pour ta gloire, et non pas pour notre élévation. Accorde-nous ces changements de perspective dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Amen.